Jules Verne, Fritz Flack. Fritz, c'est le vent qui se déchaîne. Flack, c'est la pluie qui tombe à torrents. Cette rafale mugissante courbe les arbres de la côte volsinienne et va se briser contre le flanc des montagnes du Krimma. Le long du littoral, de hautes roches sont incessamment rongées par les lames de cette vaste mer de la mégalocride. Fritz Flack. Au fond du port se cache la petite ville de Luchtrop. Quelques centaines de maisons, avec miradors verdâtres qui les défendent tant bien que mal contre les vents du large. Quatre ou cinq rues montantes, plus ravines que rues, pavées de galets, souillées de scories que projettent les cônes éruptifs de l'arrière-plan. Le volcan n'est pas loin. Le vent glore. Pendant le jour, la poussée intérieure s'épanche sous forme de vapeur sulfurée. Pendant la nuit, de minute en minute, gros vomissement de flammes. Comme un phare d'une portée de 150 kertz, le Vanglore signale le port de Luchtrop aux caboteurs, Felsan, Verlich ou Balance, dont les traves scient les eaux de la mégalocride. De l'autre côté de la ville s'entassent quelques ruines de l'époque crimérienne, puis un faubourg d'aspect arabe, une casbah, mur blanc, à toit rond, à terrasse dévorée du soleil. Amoncellement de cubes de pierre jetés au hasard. Vrai tas de dés à jouer dont les points se seraient effacés sous la patine du temps. Entre autres, on remarque le 6-4, nom donné à une construction bizarre, ayant 6 ouvertures sur une face et 4 sur l'autre. Un clocher domine la ville. La cloche carrée de Sainte-Philhélène, avec cloche suspendue dans l'entrefend des murs, et que l'ouragan met quelquefois en branle. Mauvais signe, alors on a peur dans le pays. Tel est Luchtrop. Puis des habitations éparses dans la campagne, au milieu des genêts et des bruyères, passimes comme en Bretagne. Mais on n'est pas en Bretagne. Est-ce en France? Oh, je le sais. En Europe? Je l'ignore. En tout cas, ne cherchez pas Luchtrop sur la carte, même dans l'atlas de Stiller. Frock. Un coup discret a été frappé à l'étroite porte du 6-4 à l'angle gauche de la rue Messinglière. C'est une maison des plus confortables, si toutefois ce mot accourt à Luchtrop, enfin, une des plus riches, si de gagner bon ou mal an quelques milliers de fretzer constitue la richesse. Au Frock a répondu un de ces aboiements sauvages, dans lesquels il y a des hurlements, enfin ce que serait l'aboiement d'un loup. Puis une fenêtre s'ouvre au-dessus de la porte du 6-4. À tous les diables, les importuns, dit une voix de méchante humeur. Une jeune fille, grelottant sous la pluie, enveloppée d'une mauvaise cape, demande si le docteur Trifulgas est à la maison. Ben, il y est ou il n'y est pas, c'est selon. Je viens pour mon père qui se meurt. Où se meurt-il? Du côté du Val Carniou, à 4 kertz d'ici, et il se nomme Fort Cartif. Fort Cartif le craquelinier? Un homme dur, ce docteur Trifulgas, peu compatissant, ne soignant que contre espèces versées d'avance. Son vieux Urzoff, un métis de bouledogue et d'épagnol, aurait eu plus de cœur que lui. La maison du 6-4, inhospitalière aux pauvres gens, ne s'ouvrait que pour les riches. D'ailleurs, c'était tarifé, tant pour une fièvre typhoïde, tant pour une congestion, tant pour une péricardite et autres maladies que les médecins inventent par douzaines. Or, le craquelinier Fortcartif était un pauvre homme d'une famille misérable. Pourquoi le docteur Trifulgas se serait-il dérangé par une nuit pareille? « Rien que de m'avoir fait lever, murmura-t-il en se recouchant, ça valait déjà 10 fretzer. » 20 minutes s'étaient à peine écoulées que le marteau de fer frappait encore lui du 6-4. Tout maugréant, le docteur quitta son lit et, penché hors de la fenêtre, « Qui va là ? » s'écria-t-il. « Je suis la femme de Vord Kartif, le craquelinier du Valcarniou. » « Oui, et si vous refusez de venir, il mourra. »« Eh bien, vous serez veuve. »« Voici 20 fretzer. »« 20 fretzer pour aller au Valcarniou à 4 heures d'ici. »« Par grâce, au diable !» Et la fenêtre se referma. « 20 fretzer, la belle aubaine. »« Risquer un rhume ou une courbature pour 20 fretzer ?» Surtout quand le lendemain on est attendu à Kiltreno, chez le riche Edzingoff, le goutteux dont on exploite la goutte à 50 fretzer par visite. Sur cette agréable perspective, le docteur Trifulgas se rendormit plus dur que devant. Frit, flac, et puis froc, froc, froc. À la rafale se sont joints cette fois 3 coups de marteau, frappés d'une main plus décidée. Le docteur dormait. Il se réveilla, mais de quelle humeur ? La fenêtre ouverte, l'ouragan entra comme une boîte à mitraille. « C'est pour le craquelinier ! Encore ce misérable ! Je suis sa mère ! Que la mère, la femme et la fille crèvent avec lui ! Il a eu une attaque. Eh bien, qu'il se défende ! « On nous a remis quelque argent, » reprit l'aïeul. « Un acompte sur la maison qui est vendue au calondeur d'Antrupe de la rue Messaglière. Si vous venez pas, ma petite fille n'aura plus de père, ma fille aura plus de mari et moi j'aurai plus de fils. » C'était pitoyable et terrible d'entendre la voix de cette vieille, de penser que le vent lui glaçait le sang dans les veines, que la pluie lui trempait les os, jusque sous sa maigre chair. Une attaque, c'est 200 fretzer, répondit le sans-cœur Trifulgas. Mais nous n'en avons que 120. Bonsoir. Et la fenêtre de se refermer. Mais après réflexion, 120 fretzer pour 1 heure et demie de course, plus une demi-heure de visite. Oh, cela faisait encore 60 fretzer l'heure, 1 fretzer par minute. Petit profit, point à dédaigner pourtant. Au lieu de se recoucher, le docteur se glissa dans son habit de valvêtre, descendit dans ses grandes bottes de marais, s'enfourna sous sa houppelande de lurten, et sans sourouet sur la tête, ses moufles aux mains, il laissa sa lampe allumée près de son codex ouvert à la page 197. Puis, poussant la porte de 6-4, il s'arrêta sur le seuil. La vieille était là, appuyée sur son bâton, décharnée par ses 80 ans de misère. « Les 120 fretzer ? Les voici, et que Dieu vous les rende au centuple. Dieu, oh l'argent de Dieu ! Est-ce que personne n'en a jamais vu la couleur ? » Le docteur siffla aux offres, lui mit une petite lanterne à la gueule, prit le chemin de la mer. La vieille suivait. Quel temps de frites et de flax ! Les cloches de Saint-Philippe-Vilaine se sont mises en branle sous la bourrasque. Mauvais signe. Bah, le docteur Trifulgas n'est pas superstitieux. Il ne croit à rien, pas même à sa science, excepté pour ce qu'elle lui rapporte. Quel temps, mais aussi quel chemin, des galets et des scories. Les galets glissant de varech, les scories qui crépitent comme du mâche-fer. Pas d'autre lumière que la lanterne du chien Urzaf, vague vacillante. Parfois, la poussée de flammes du Vanglore, au milieu desquelles paraissent se démener de grandes silhouettes falotes. On ne sait pas vraiment ce qu'il y a au fond de ces cratères insondables. Peut-être les âmes du monde souterrain qui se volatilisent en sortant. Le docteur et la vieille suivent le contour des petites baies du littoral. La mer est blanche d'un blanc livide, un blanc de deuil. Elle brasille en sécrétant à la ligne phosphorescente du ressac qui semble verser des potées de verre luisants sur la grève. Tous deux remontent ainsi jusqu'au détour du chemin, entre les dunes vallonnées, dont les genêts et les ajoncs s'entrechoquent avec un cliquetis de baïonnette. Le chien s'était rapproché de son maître et semblait lui dire « Oh, 120 francs à mettre dans le coffre-fort, c'est ainsi que l'on fait fortune. Une mesure de plus à l'enclos de la vigne, un plat de plus au souper du soir, une pâtée de plus aux fidèles Ursoff. Soyons les riches malades et saignons-les à leur bourse. » En cet endroit, la vieille s'arrête. De son doigt tremblant, elle montre dans l'ombre une lumière rougeâtre. C'est la maison de Fort Cartif, le craquelinier. « Là ?» fait le docteur. « Oui, » répondit la vieille. « Où ?» pousse le chien d'Ursoff. Tout à coup, le vent glore des tonnes, secoué jusque dans les contreforts de sa base. Une gerbe de flammes fuligineuses monte jusqu'au zénith, trouant les nuages. Le docteur Trifulgas a été renversé d'un coup. Il jure comme un chrétien, se relève, regarde. La vieille n'est plus derrière lui. A-t-elle disparu dans quelle couverture du sol, ou s'est-elle envolée à travers le frottement des brumes ? Quant au chien, il est toujours là, debout sur ses pattes de derrière, la gueule ouverte, la lanterne éteinte. « Allons toujours !» murmure le docteur Trifulgas. « L'honnête homme a reçu ses 120 frais de sœur, il faut bien les gagner. Plus qu'un point lumineux à une demi-kertz, c'est la lampe du mourant, du mort peut-être. Voilà bien la maison du craquelinier. » L'aïeul l'a indiqué du doigt, pas d'erreur possible. Au milieu des frites sifflants, des flaques crépitants, dans le brouhaha de la tourmente, le docteur Trifulgas marche à pas pressés. À mesure qu'il avance, la maison se dessine mieux, étant isolée au milieu de la lande. Il est singulier d'observer comment elle ressemble à celle du docteur au 6-4 de Luktrop. Même disposition de fenêtres sur la façade, même petite porte cintrée. Le docteur Trifulgas se hâte aussi rapidement que le permet la rafale. La porte est trop ouverte, il n'a qu'à la pousser, il la pousse, il entre, et le vent la referme sur lui brutalement. Le chien Ursoff dehors hurle, se taisant par intervalles, comme les chantres entre les versets d'un psaume des 40 heures. C'est étrange, on dirait que le docteur Trifulgas est revenu dans sa propre maison. Il ne s'est pas égaré, cependant, il n'a point fait un détour. Il est bien au Val Carniou, non à Luktrop. Et pourtant, même corridor, bas et voûté, même escalier de bois tournant à grosses rampes, usé de frottements de mains. Il monte, il arrive au palier. Devant la porte, une faible lueur filtre en dessous, comme au 6-4. Est-ce une hallucination ? Dans une lumière vague, il reconnaît sa chambre, le canapé jaune à droite, le bahut en vieux poirier à gauche, le coffre-fort bardé où il comptait déposer les 120 frais de zère. Voilà son fauteuil à rayons de cuir. Voilà sa table à pied tort et dessus, près de la lampe qui se meurt, son codex ouvert à la page 197. « Mais qu'ai-je donc ? » murmura-t-il. « Ce qu'il a, il a peur. Sa pupille s'est dilatée, son corps s'est comme contracté, amoindri. Une transsudation glacée refroidit sa peau, sur laquelle il sent courir de rapides horripilations. Mais hâte-toi donc, faute d'huile, la lampe va s'éteindre, le moribond aussi. Oui, le lit est là, son lit à colonne, à baldaquin, aussi long que large, fermé de courtines à grand ramage. Mais est-il possible que ce soit là le grabat d'un misérable croquelinier ? D'une main qui tremble, le docteur Trifulgas saisit les rideaux. Il les ouvre, il regarde. Le moribond, sa tête hors des couvertures, est immobile, comme au bout de sa dernière respiration. Le docteur se penche sur lui. Oh, quel cri auquel répond en dehors un sinistre aboiement du chien. Le moribond n'est pas le craquelinier von Kartiff. C'est le docteur Trifulgas. C'est lui que la congestion a frappé lui-même. Une apoplexie cérébrale avec accumulation de sérosité dans les cavités du cerveau, avec paralysie du corps au côté opposé à celui où se trouve le siège de la lésion. Oui, c'est lui pour qui on est venu le chercher, pour qui on a payé 120 frais de serre. Lui qui, par dureté de cœur, refusait d'aller soigner le craquelinier pauvre. Lui qui va mourir. Le docteur Trifulgas est comme fou. Il se sent perdu. Les accidents croisent de minute en minute. Non seulement toutes les fonctions de relation se suppriment en lui, mais les mouvements du cœur et de la respiration vont cesser. Et pourtant, il n'a pas encore perdu entièrement connaissance de lui-même. Que faire ? Diminuer la masse du sang au moyen d'une émission sanguine ? Le docteur Trifulgas est mort s'il hésite. On saignait encore dans ce temps-là, et comme à présent, les médecins guérissaient de l'apoplexie, ce qui ne devait pas en mourir. Le docteur Trifulgas saisit sa trousse, tire une lancette, pique la veine du bras de son sosie. Le sang ne vient pas à son bras. Il lui fait d'énergiques frictions à la poitrine. Le jeu de la sienne s'arrête. Il lui brûle les pieds avec des pierres chaudes. Les siens se refroidissent. Alors son sosie se redresse, se débat, pousse un râle suprême. Et le docteur Trifulgas, malgré tout ce qu'a pu lui inspirer la science, se meurt entre ses mains. Frit, flac. Le matin, dans la maison du 6-4, on ne trouva qu'un seul cadavre, celui du docteur Trifulgas. On le mit en bière, et il fut conduit en grande pompe au cimetière de Luktrop, après tant d'autres qu'il y avait envoyés, selon la formule. Quant au vieux Utsov, on dit que depuis ce jour, il court la lande, avec sa lanterne rallumée, hurlant au chien perdu. Je ne sais si cela est, mais il se passe des choses étranges dans ce pays de la Volhynie, précisément aux alentours de Luktrop. D'ailleurs, ne cherchez pas, je le répète, cette ville sur la carte. Les meilleurs géographes n'ont pu se mettre d'accord sur sa situation en latitude, ni même en longitude.